franceinter.fr.
Et c'est la revue de presse de Philippe Lefebvre. Bonjour Philippe.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Et bien évidemment, ce matin, dans vos journaux, on reparle de l'attaque du Thalys. Et s'il n'avait pas été là, se demande le Parisien dimanche, qui publie sur toute sa une les photos des quatre héros du Thalys, américains et anglais, qui ont été et qui ont neutralisé le tireur. Des photos qui ont fait le tour de la presse mondiale. Mais cet attentat déjoué, ajoute le Parisien, révèle toute la difficulté de sécuriser les transports en commun. Et c'est justement le titre du journal du dimanche. La sécurité en question, peut-on faire plus? Et comme certains de nos confrères l'évoquaient hier, placer des portiques de détection de métaux dans les gares? Eh bien la réponse est non pour Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui répond au journal du dimanche. Il faut juste rappeler, a-t-il dit, que le train en France, c'est 20 fois plus de passagers que l'aérien. Il faudrait donc faire 20 fois plus de contrôles. Ce n'est pas une piste sur laquelle il faut compter, conclut le PDG de la SNCF. Et chez nos voisins européens, eh bien, on revient aussi ce matin sur cette affaire et sur le parcours d'Ayoub El Kazani, ce Marocain de 26 ans, entendu donc depuis hier dans les locaux de la sous-direction antiterroriste. El País en Espagne nous rappelle que les autorité espagnole avait signalé dès 2012 le côté potentiellement dangereux de cet homme qui avait slalomé entre islamisme radical et trafic de drogue. On apprend aussi dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung que les services de renseignement allemands s'étaient eux aussi intéressés à lui en mai dernier. Visiblement, explique le journal, El Kazani serait passé par l'aéroport de Berlin-Tegel pour se rendre en Turquie puis en Syrie. Enfin, la Libre Belgique revient sur les déclarations hier soir de Charles Michel, le Premier ministre belge, à propos de l'accord de libre circulation des personnes en Europe. Nous devons peut-être adapter Schengen aux nouvelles menaces en Europe et aller vers de nouvelles règles de contrôle des identités et des bagages, a dit le Premier ministre belge, qui affirme vouloir consulter ses homologues européens sur la question.
On parle aussi politique et économie ce matin dans les journaux, Philippe.
Eh oui, politique tout d'abord, car aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est la journée d'Arnaud Montebourg, sa traditionnelle fête de la rose à Frangy-en-Bresse, avec l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, comme invité vedette. Et à cette occasion, le Parisien se demande si ce que pèse encore Arnaud Montebourg. Rosalie Lucas nous explique dans le quotidien que l'ancien ministre du redressement productif, devenu aujourd'hui vice-président d'Habitat, semble un peu isolé. Les parlementaires socialistes sont peu nombreux à afficher leur soutien, mais qu'à cela ne tienne, il rencontrerait, selon son entourage, beaucoup de monde, des élus, des entrepreneurs, des intellectuels, des syndicalistes, peut-être pour se positionner pour 2017. Et puis au chapitre politique, au chapitre économique, le journal du dimanche rappelle que demain, Xavier Belin, le président de la FNSEA, rencontrera François Hollande et Manuel Valls au menu de l'entretien, bien évidemment la crise agricole actuelle. Alors, il est vrai que le leader syndical agricole français pointe du doigt une réalité. Aujourd'hui, une exploitation agricole disparaît chaque jour. Et selon Xavier Belin, il faudrait 3 milliards d'euros pour sauver le secteur de l'élevage et pour être de nouveau compétitif vis-à-vis de l'Allemagne.
Et côté sport, il y a aussi, bien sûr, du rugby ce matin.
Et oui, des journaux rassurés, car hier, au Stade de France, le 15 de France a battu l'Angleterre 25 à 20. Le compte est bon, titre l'équipe, affirmant que les rugbymen français ont livré un match rassurant, ajoutant que Frédéric Michalak, auteur de 17 points, est désormais le meilleur réalisateur de toute l'histoire du 15 de France. C'est peu dire. Les Bleus, enfin sur la bonne voie, c'est un succès qui fait du bien, titre le Parisien. Et s'il n'y en a qu'un, eh bien c'est encore sur ce petit nuage qu'il est ce matin, Daniel Herrero, dans le journal du dimanche, hein, qui nous explique que les coqs ont déambulé hier, main en haut du guidon, qu'ils ont traversé la nuit claire d'une allure tranquille, robuste et maître du ballon. Il y a finalement un peu de blondin dans les propos de Daniel Herrero ce matin.
Non, en même temps, ils n'ont pas encore gagné la Coupe du Monde, les Français. Hein.
Non, ce n'est juste un match amical, mais il paraît qu'il n'y a pas de match amical, c'est juste des test-matchs, on dit en rugby.
D'accord, et côté magazine, Philippe, il y a des mauvaises nouvelles.
Ah oui, surtout si vous lisez réalisé le dernier numéro de 60 millions de consommateurs qui consacre un dossier à tout ce qui est trop cher. Vaste sujet, me direz-vous. Et Thomas Laurenceau, le rédacteur en chef du magazine, nous explique que globalement, nous payons, nous Français, les produits et les services 8% plus cher que la moyenne européenne et 6% plus cher que nos voisins allemands. Et suit dans ce dossier un inventaire à la Prévert de tout ce qui est trop cher. Cela va de l'assurance pour téléphone portable qui ne garantit pas grand-chose aux soins dentaires en passant par les suppléments bagages des compagnies aériennes low cost. Un dossier intéressant mais qui va peut-être vous plomber votre retour de vacances. Alors, si vous voulez sourire un peu, eh bien je vous recommande le dossier de la vie consacré au legs. Oui, je sais, legs, c'est pas proprement parler un sujet léger, mais Fanny Rascle s'est intéressée plus spécifiquement aux héritiers à quatre pattes aux États-Unis et aux maîtres qui lèguent leur fortune à leurs chiens et à leurs chats. Bon, alors, on donne pas encore aux chiens et aux chats de cartes de crédit, hein, je vous rassure, mais on voit de plus en plus apparaître là-bas la création de pet trusts, sont des fondations qui ont pour mission de gérer l'héritage et de faire en sorte que les fonds soient destinés à assurer le bien-être de l'animal. Alors, pour vous donner un exemple, la veuve d'un homme d'affaires a légué à son tour 3 millions de dollars à son chihuahua et 27 millions de dollars à ses employés de maison pour qu'ils prennent soin du chihuahua en question. Avouez quand même que nous vivons une époque formidable.
Ah oui, oui, oui. Oui, c'est désolant. Je suis désolée, mais merci Philippe Lefebvre. C'était la revue de presse de Philippe Lefebvre.